Il est désormais difficile d'imaginer un avant, un monde dans lequel elle n'était pas encore là. Quand elles firent leur apparition en mars, personne n'avait la moindre idée de ce qu'il fallait faire de ces étranges petites boîtes arrivées avec le printemps. Toutes les autres, aux différents stades de la vie des gens, ont une fonction précise, une utilité préétablie. La boîte à chaussures contenant une paire neuve, bien cirée, à étrenner le jour de la rentrée scolaire. Le paquet cadeau orné d'un ruban rouge frisé sur le fil d'une paire de ciseaux. L'écrin renfermant le diamant longtemps espéré. Les gros cartons scellés à l'adhésif et numérotés à la main, chargés dans le camion de déménagement. Et même la dernière caisse, celle qui reposera sous terre et dont le couvercle, une fois fermé, ne s'ouvrira plus jamais. Toutes les autres sont familières, compréhensibles, voire attendues. Toutes ont une attribution et une place, se casent naturellement dans le cours d'une vie. Mais ces boîtes, elles, étaient différentes. Elles arrivèrent au début du mois, lors d'un jour ordinaire, sous une lune ordinaire. Trop tôt pour mettre ça sur le dos de l'équinoxe. Et quand elles arrivèrent, ce fut pour tout le monde en même temps. Des petites boîtes en bois, ou du moins qui semblaient en bois, apparues pendant la nuit par millions dans toutes les régions et tous les pays. Elles apparurent sur les pelouses bien tondues des quartiers résidentiels, nichées entre la haie et les premières jacinthes. Sur des paillassons citadins usés par le passage de décennies de locataires successifs, enfoncés dans le sable chaud du désert, devant les tentes, ou à côté de cabanes solitaires au bord de l'eau, prenant la rosée dans le petit vent du lac. À San Francisco et Sao Paulo, à Johannesburg et Jaipur, dans les Andes et en Amazonie, pas un endroit, pas un individu n'échappa à l'arrivée de ces boîtes. Il y avait quelque chose de réconfortant, mais de troublant aussi dans le fait que tous les adultes de la planète partageaient cette expérience incompréhensible, suscitant terreur et soulagement. Car à bien des égards, c'était en effet la même expérience. Ces boîtes étaient presque identiques. Toutes étaient marron foncé avec des reflets rougeâtres, parfaitement lisses au toucher. Et sur chacune, était inscrit un message simple, quoique énigmatique, rédigé dans la langue maternelle de son destinataire. À l'intérieur se trouve la mesure de votre vie. Chaque boîte contenait une cordelette dissimulée sous un fin tissu d'un blanc argenté, si bien que ceux qui soulevaient le couvercle réfléchissaient à deux fois avant de regarder ce qu'il y avait dessous. Comme si la boîte elle-même mettait en garde, essayait de protéger le curieux de cette impulsion infantile qui poussait à déchirer immédiatement l'emballage d'un cadeau. Comme si elle lui demandait de marquer une pause, de bien réfléchir à ce qu'il s'apprêtait à faire. Car il ne pourrait plus jamais revenir sur ce geste-là. En réalité, les boîtes ne différaient que sur deux plans. Chacune était au nom de son unique destinataire, et chaque cordelette, à l'intérieur, était d'une longueur spécifique. Mais quand ces boîtes surgirent en ce mois de mars, personne, dans la frayeur et la pagaille ambiante, ne comprit vraiment ce que signifiait la mesure. Enfin, pas tout de suite. Printemps. Nina. Quand la boîte à son nom fit son apparition devant sa porte, Nina était encore au lit et dormait, les paupières frémissant doucement, tandis que son esprit endormi bataillait avec un rêve difficile. Elle était de nouveau au lycée et le professeur réclamait un devoir que personne ne lui avait dit de rédiger. C'était un cauchemar familier pour quelqu'un ayant tendance à souffrir de stress, mais insignifiant à côté de celui qui l'attendait dans le monde réel. Ce matin-là, Nina se réveilla la première, comme d'habitude, et se glissa hors du lit sans perturber le sommeil de Maura. Elle poussa jusqu'à la cuisine, toujours dans son pyjama écossais, et alluma le gaz sous la bouilloire orange ventrue que Maura avait dénichée aux puces l'été précédent. L'appartement était toujours délicieusement calme à cette heure matinale, le silence à peine rompu de temps à autre par le crachotement de la bouilloire sur les flammes de la cuisinière. Plus tard, Nina se demanda pourquoi elle n'avait rien entendu ce matin-là. Il n'y eut ni cri ni sirène, pas de téléviseur à plein volume, rien qui lui signale le chaos qui régnait déjà hors de chez elle. Si elle n'avait pas allumé son téléphone, peut-être aurait-elle pu rester un petit instant encore dans ce calme, à savourer l'époque d'avant. Mais non. Elle s'assit sur le canapé pour consulter son portable, comme tous les matins, prête à lire une demi-douzaine d'emails et parcourir diverses newsletters, jusqu'au moment où le réveil de Maura sonnerait, après quoi elles opteraient ensemble pour des œufs ou du porridge. Se tenir informée faisait partie du travail de rédactrice de presse de Nina, mais le nombre d'applications et de fils d'actualité s'était multiplié avec les années, au point qu'elle était parfois découragée à l'idée qu'elle pourrait passer toute une vie à lire sans jamais réussir à rattraper le mouvement. Ce matin-là, elle n'eut même pas l'occasion de commencer. Sitôt l'écran d'accueil déverrouillé, elle comprit que quelque chose clochait. Trois appels en absence de la part de ses amis et des textos qui s'amassaient depuis des heures, une grande majorité en provenance de ses collègues rédacteurs dans leur groupe de discussion. C'est quoi ce bordel? Tout le monde en a reçu une? Putain, il y en a partout, dans le monde entier. L'inscription est véridique? N'ouvrez pas avant qu'on en sache plus. Mais dedans, il y a juste un bout de corde, non? Nina sentit sa poitrine se contracter et la tête lui tourner tandis qu'elle tentait de reconstituer le puzzle. Elle se connecta à Twitter, puis à Facebook. Où qu'elle regarde, la même panique, tout en majuscules et points d'interrogation. Mais cette fois, il y avait des photos. Des centaines d'utilisateurs avaient posté des clichés de petites boîtes marron posées sur le seuil de leur domicile. Et pas seulement à New York, où elle vivait. Partout. Sur quelques-uns, Nina réussit à lire l'inscription. À l'intérieur se trouve la mesure de votre vie. Qu'est-ce que ça pouvait bien vouloir dire ? Son cœur battait à toute vitesse, rivalisant avec la frénésie de questions qui lui venaient à l'esprit. La plupart des gens en ligne, confrontés au même message obscur, s'étaient rapidement ralliés à une conclusion terrifiante. Quoi que contienne cette boîte, elle prétendait connaître la durée exacte de la vie de son destinataire. Le temps qui lui avait été alloué par on ne savait quelle puissance mystérieuse. Nina était à deux doigts de crier à Maura de se réveiller, quand elle comprit qu'elles aussi devaient avoir reçu ces boîtes. Elle laissa tomber son téléphone sur le canapé, les doigts tremblants, et se leva, gagna la porte d'entrée de l'appartement d'un pas un peu chancelant, puis prit une bonne inspiration et regarda par l'œilleton. Mais elle ne voyait pas jusqu'au sol. Elle tourna donc lentement le verrou et entr'ouvrit la porte comme si un inconnu attendait derrière. Les boîtes étaient là, posées sur le paillasson que Maura avait tenu à apporter en venant s'installer chez Nina, ornée de la citation de Bob Dylan, « Be groovy or leave, man ». Nina aurait sans doute préféré quelque chose de plus neutre, un paillasson tressé tout simple. Mais cette inscription invitant quiconque passait la porte à être cool ou dégagé faisait toujours sourire Maura, et à force de la lire chaque fois qu'elle rentrait, Nina en était venue à l'adorer aussi. Les boîtes masquaient presque la totalité du paillasson. Deux. En bois. Une chacune, apparemment. Plus loin dans le couloir, Nina vit qu'un paquet identique attendait leur voisin, un veuf âgé qui ne sortait qu'une fois par jour pour descendre ses poubelles. Elle se demanda si elle devait le prévenir. Mais que pourrait-elle bien lui dire ? Elle était encore en train de contempler les boîtes à ses pieds, trop angoissée pour y toucher et pourtant trop interloquée pour les laisser là, quand le sifflement de la bouilloire l'attira de sa sidération et lui rappela que Maura, elle, n'était toujours pas au courant.